Dr. Dave Mathewson, Littérature du Nouveau Testament. Conférence 8, Le Royaume de Matthieu et ses particularités. Symbole copyright 2024 Dave Mathewson et Ted Rill de Brent. Très bien, allons-y, commençons par la prière, puis nous terminerons en regardant Matthieu, en nous concentrant sur, nous avons examiné, de manière un peu détaillée, une poignée de passages, principalement les chapitres 2, 3 et 4, décrivant Jésus comme l'accomplissement de l'histoire d'Israël. Nous sommes en train d'examiner un peu les chapitres 5 à 7, le premier bloc principal de l'enseignement de Jésus, le célèbre sermon sur la montagne, puis nous passerons en revue cela rapidement et je voudrais ensuite résumer ce qui est distinctif chez Matthieu. Quels sont certains des thèmes ou des idées sur lesquels Matthieu souligne que les autres évangiles ne le font pas, ou du moins pas au même degré que Matthieu? En quoi, qu'est-ce qui est distinct dans la représentation de Jésus par Matthieu? Comment Matthieu présente-t-il Jésus dans ses évangiles? Que met-il en avant chez lui? Et puis peut-être passer à Marc également, même si vous remarquerez dans vos notes de cours que j'ai un certain nombre d'excursions. Il y a une excursion qui est une sorte de piste de lapin. Nous en parlerons dans Matthieu. Je veux parler un peu du thème du royaume de Dieu, qui était le thème prédominant de l'enseignement de Jésus. Dans tous les évangiles, lorsque Jésus commence à prêcher, on dit qu'il est venu enseigner et prêcher le royaume de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'offrait Jésus lorsqu'il venait prêcher le royaume de Dieu? Comment les lecteurs et les premiers auditeurs auraient-ils compris cela? Lors d'un excursus, une sorte de digression, nous parlerons un peu du royaume de Dieu. D'où ça vient? Jésus n'a pas simplement inventé cela et l'a sorti de nulle part. Il a en fait une longue histoire qui remonte à l'Ancien Testament. Nous allons donc examiner cela très brièvement et, espérons-le, pouvoir également passer à Marc. Très bien, commençons par la prière, puis nous reviendrons à l'évangile de Matthieu. Père, je prie pour que tu guides notre discussion et notre réflexion sur l'évangile de Matthieu et les autres livres du Nouveau Testament que nous considérons. Seigneur, je prie pour que tu nous aides à les comprendre plus clairement dans leur contexte d'origine et que tu sois donc capable de comprendre comment ils continuent à nous parler aujourd'hui comme ta parole adressée à ton peuple aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous avons examiné le sermon sur la montagne dans Matthieu 5 à 7, dans lequel nous avons dit que l'une des caractéristiques distinctives de Matthieu est que Matthieu divise son évangile ou structure son évangile autour de cinq discours principaux ou blocs d'enseignement de Jésus. Nous y reviendrons dans un instant. L'un des premiers blocs d'enseignement et peut-être le plus connu est le sermon sur la montagne, ce que nous appelons le sermon sur la montagne. Nous avons parlé un peu de ce que Jésus faisait là-dedans. L'un des points de vue courants sur le sermon sur la montagne est, et cela nous amène à la dernière question dont je veux parler en relation avec le sermon, à savoir, devons-nous comprendre le sermon en termes de loi contre grâce? Autrement dit, en tant que chrétiens, nous faisons souvent une distinction nette entre la loi et l'exigence, c'est-à-dire l'obéissance, quelque chose que nous faisons par opposition à la grâce de Dieu. C'est quelque chose que Dieu nous fournit ou nous donne. Alors, le sermon sur la montagne est-il entièrement consacré à la loi et totalement dépourvu de la grâce de Dieu? Encore une fois, lorsque vous lisez le sermon, vous trouvez cette liste de choses que Jésus commence à nous dire. Vous avez entendu qu'il a été dit, « Ne tuez pas mais je vous dis que si quelqu'un est son ennemi, vous êtes coupable comme si vous aviez commis un meurtre » et il continue et vous donne des ordres qui ressemblent par certains côtés à ce qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Ainsi, certains ont répondu, « Eh bien, le sermon sur la montagne concerne vraiment la loi et contient très peu de l'évangile de l'amour de Dieu et de sa grâce, et donc les gens ont eu du mal à savoir que faire avec le sermon sur la montagne qui sonne comme un peu comme si c'était une exigence de la loi, un peu comme la loi d'Israël. » Et une réponse est, « Eh bien, le sermon sur la montagne est principalement destiné à nous montrer que nous échouons. » Ainsi, la loi est conçue comme un instrument de mesure pour nous montrer que nous ne pouvons pas être à la hauteur et nous pousse donc vers la grâce de Dieu. Ainsi, la fonction principale du sermon sur la montagne est de nous indiquer la grâce de Dieu et de faire confiance au Christ et à la grâce de Dieu et non à nos propres capacités, car la loi nous montre que nous ne pouvons pas être à la hauteur et que nous pouvons le faire. Je ne le garde pas. Et donc, la loi n'est pas là principalement pour nous montrer ce que Dieu, pour instruire les chrétiens sur la façon de vivre, mais elle est censée montrer nos échecs et notre péché et donc nous diriger vers Jésus-Christ et nous jeter à la merci de Dieu et de sa grâce. Cependant, je suis convaincu que c'est une manière incorrecte de lire le sermon sur la montagne. Oui, dans un certain sens, toutes les Écritures démontrent parfois que nous échouons et que nous sommes seuls et qu'avec nos propres ressources et nos propres efforts, nous ne pouvons pas espérer être à la hauteur et que nous devons compter sur la grâce et la grâce de Dieu. Sa capacité de vivre le genre de vie qu'il désire. Dieu, en tant que théologien bien connu du passé, Dieu donne ce qu'il demande. Mais lorsque vous lisez le sermon sur la montagne, la première chose à reconnaître est que nous en avons parlé un peu dans le contexte du sermon. Rappelez-vous que le sermon sur la montagne s'inscrit dans le contexte de l'enseignement de Jésus sur le royaume. C'est-à-dire le royaume de Dieu, que nous examinerons plus tard, mais le royaume où le règne ou la domination de Dieu est déjà une réalité présente dans laquelle les hommes et les femmes peuvent entrer et participer et expérimenter en répondant à Jésus-Christ afin que le sermon sur la montagne, cela présuppose avant tout que le royaume de Dieu et son règne soient arrivés. Donc, ces instructions doivent être comprises dans le contexte de, ce sont des instructions pour ceux qui ont expérimenté le règne de Dieu et le règne de Dieu en répondant à Jésus-Christ. Autrement dit, ils ont expérimenté la puissance transformatrice du royaume de Dieu et de son règne dans leur vie. L'autre chose cependant est qu'avant que Jésus ne commence à commander, si nous voulons utiliser ce mot et exiger un certain style de vie du peuple de Dieu, si vous vous souvenez que le sermon sur la montagne commence par une série de ce que nous avons appelé béatitude au chapitre 5. Alors, Jésus, avant de se lancer dans ce domaine, voici ce que j'exige de mon peuple. Il commence par dire, « Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Bienheureux les doux car ils hériteront de la terre. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice car ils seront rassasiés. Et il y en a plusieurs autres. Mais ce sur quoi je vais me concentrer, c'est qu'il est très intéressant que Jésus commence ainsi. Avant d'arriver au commandement, pourquoi commencerait-il par dire, bienheureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice. Pourquoi Jésus commence-t-il de cette façon? Il est important de comprendre que lorsque Matthieu, en rapportant les paroles de Jésus, dit « Bienheureux les pauvres en esprit », l'idée du pauvre en esprit est que l'on se trouve spirituellement pauvre devant Dieu. Autrement dit, c'est l'image de quelqu'un qui est moralement, éthiquement et spirituellement en faillite devant Dieu. Ils n'ont absolument rien à lui offrir. Ils se situent dans la même position que celui qui est physiquement pauvre n'a absolument aucune ressource au niveau physique. Quelqu'un qui est spirituellement pauvre reconnaît la faillite de ses propres ressources devant Dieu. Et puis c'est intéressant, la question suivante est, bienheureux ceux qui pleurent. Il est important de comprendre cela à la lumière du contexte de l'Ancien Testament. Si vous pouvez repenser à certains textes de l'Ancien Testament, peut-être à certains que vous avez consultés en cours sur l'Ancien Testament, quel était habituellement le contexte du deuil dans l'Ancien Testament? En particulier, de nombreux prophètes ont souvent appelé le peuple de Dieu au deuil. Pourquoi? En d'autres termes, est-ce juste une tristesse générale parce que je suis persécuté ou simplement parce que ma vie est, vous savez, je regarde autour de moi et la vie est terrible ou j'ai perdu des êtres chers et donc la vie ne semble tout simplement pas juste, alors je pleure et je pleure parce que je suis triste. Est-ce que c'est ça? Dans l'Ancien Testament, quel était souvent le contexte du deuil? C'est vrai, la réalisation de la séparation d'avec Dieu. Vous avez tout à fait raison. Et qu'est-ce qui provoquait généralement cela? Quoi? Répète ça. Oh oui, le péché d'Israël. Alors le deuil, tu as tout à fait raison. Le deuil était la réponse au péché et à la séparation conséquente de la présence de Dieu. Ainsi, lorsque les prophètes appellent Israël au deuil, c'est une réponse de deuil et de repentance à cause du péché. Le deuil ici n'est donc pas seulement une tristesse générale. L'appel au deuil est ici un appel à la repentance à cause du péché. Et puis, chose intéressante, le prochain, ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés. Donc, si vous mettez tout cela ensemble, le sermon sur la montagne suppose que quelqu'un qui reconnaît sa faillite morale devant Dieu, qu'il n'a aucune ressource spirituelle. Ils pleurent le péché et reconnaissent leur état de péché et répondent par le repentir et le deuil. Mais alors ils ont faim et soif de justice et Dieu les comblera. Et puis vient le sermon sur la montagne. Ainsi, le sermon sur la montagne est loin d'être une exigence ou une loi imposée au peuple de Dieu, il vise simplement à montrer qu'il n'est pas à la hauteur, même s'il peut le faire. C'est plus qu'une simple éthique pour le bien de la société. Il s'agit plutôt de l'éthique que le Christ exige de ceux qui ont fait l'expérience de la puissance transformatrice du royaume de Dieu. Pour ceux qui sont entrés dans le règne de Dieu dans leur vie, le sermon sur la montagne démontre ce que l'on attend d'eux. Mais en même temps, cela nous rappelle que ceux qui sont entrés dans le règne de Dieu sont ceux qui reconnaissent qu'ils sont spirituellement en faillite, qu'ils n'ont aucune ressource par eux-mêmes, qu'ils pleurent parce qu'ils ne sont pas à la hauteur dans le péché, et pourtant ils ont faim et soif. La justice que Jésus exprime dans le sermon sur la montagne. Et quand ils le font, Dieu les remplit. Ainsi, le sermon sur la montagne, encore une fois, est loin d'être simplement une exigence à laquelle nous sommes censés être à la hauteur et montrer que nous n'avons pas réussi, mais c'est plutôt une exigence que Dieu satisfait. Dieu donne la capacité de répondre à cette exigence. Le genre de style de vie que l'on attend de ceux qui appartiendraient et entreraient au royaume de Dieu. Et nous parlerons ensuite davantage de ce que nous entendons par royaume de Dieu. Ainsi, lorsque vous lisez le sermon sur la montagne, il ne s'agit pas d'une éthique idéale que personne ne peut respecter. Il ne s'agit pas seulement de nous montrer que nous ne sommes pas à la hauteur, mais plutôt de montrer le plan de Dieu sur la manière dont son peuple devrait vivre et qui appartient à son royaume. Mais cela suppose que ceux qui reconnaissent leur propre incapacité ont faim et soif de justice que seul Dieu peut finalement leur fournir. D'accord. En fait, je veux passer à la section suivante, qui est la Grande Commission. Nous en avons parlé un peu à la toute fin de Matthieu. Et comme je l'ai déjà dit, avec la Grande Commission, fondamentalement, la Grande Commission correspond au reste de Matthieu comme ceci. Si tout ce que Matthieu a dit jusqu'à présent à propos de Jésus, si Jésus est bien le fils de David et s'il est bien le fils de Dieu, le Messie est le Messie, et si ce que Matthieu a dit à propos des gentils est également vrai, si Jésus est venu comme le Messie non seulement pour les Juifs, mais aussi pour les gentils, puis la Grande Commission suit. Il s'ensuit que Jésus dirait alors, « Allez faire des disciples de toutes les nations », pas seulement d'Israël, mais de toutes les nations, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en leur apprenant à ne pas faire la loi de Moïse. Mais tout ce que je vous ai commandé. Alors maintenant, si tout ce que Matthieu dit à propos de Jésus est exact, alors il incombe aux disciples de Jésus de s'engager dans cette mission mondiale qui fait de toutes les nations des disciples, qui accomplit ce que Jésus lui-même a commencé sur terre, c'est-à-dire se présenter comme le roi messianique. En accomplissement de l'Ancien Testament, mais pas seulement pour les Juifs, mais aussi pour les gentils. Et nous avons vu que c'est pourquoi Jésus, au tout début de l'Évangile, c'est pourquoi Jésus a été appelé non seulement le fils de David mais aussi le fils d'Abraham, celui par qui toutes les nations de la terre seraient bénies. Maintenant, la promesse faite à Abraham s'accomplit dans la Grande Commission, où il est demandé aux disciples de Jésus de faire des disciples de toutes les nations, d'apporter à Abraham cette bénédiction de Genèse 12 qui atteindrait toutes les nations. Maintenant, cela s'accomplit à travers Jésus et ses disciples dans cette soi-disant Grande Commission. Donc, étant donné ce que nous avons vu jusqu'à présent, et encore une fois, nous avons examiné certains des principaux accents de Matthieu, nous avons examiné quelques passages en détail, quel semble être le but de Matthieu. Je veux dire, pourquoi Matthieu s'est-il assis et a-t-il écrit ce livre en premier lieu? Tout d'abord, il est important de comprendre que Matthieu est l'évangile de Matthieu, même s'il y a des controverses, car la difficulté est que Matthieu ne nous dit jamais pourquoi il écrit. Il n'identifie pas ses lecteurs. Il y a donc un peu de spéculation. Nous devons en quelque sorte jouer le rôle d'un détective en lisant Matthieu et ce que nous pouvons savoir sur le premier siècle. Nous essayons de dresser un tableau plausible de la raison pour laquelle Matthieu a écrit cela. Très probablement, Matthieu est écrit aux chrétiens juifs. C'est-à-dire des gens qui sont issus du judaïsme, de leur héritage juif, et qui ont maintenant répondu à la personne de Jésus-Christ. Pourtant, lorsque Matthieu a été écrit, à cette époque, il n'y avait peut-être pas cette forte division entre les juifs non chrétiens et les juifs chrétiens, ceux qui ont répondu avec foi à Jésus le Messie en tant que fils de David, et ceux qui ne l'ont pas fait. Des groupes tels que les pharisiens et les esséniens, beaucoup de ces groupes que nous avons examinés. Il n'y avait donc probablement pas encore de division marquée entre les juifs non chrétiens et les juifs chrétiens à ce stade. Et donc, il se peut que beaucoup de juifs chrétiens au premier siècle priaient encore dans la synagogue juive aux côtés de leurs amis et de leurs familles juives, alors qu'il aurait très bien pu aussi adorer avec l'Église, cette nouvelle chose que nous appelons le christianisme. Mais à ce stade, le christianisme n'était peut-être pas encore aussi nettement distingué du judaïsme. Alors pensez à ça. Si tel est le cas, les lecteurs de Matthieu étaient peut-être des juifs chrétiens qui avaient encore des contacts avec la synagogue, avec des juifs non chrétiens. Pourtant, il y avait une question d'identité. Rappelez-vous que nous avons dit que l'une des questions posées au premier siècle environ était, que signifie être le peuple de Dieu? Qui est le vrai peuple de Dieu? Et pensez grec de cette façon. Certains juifs non chrétiens se sont peut-être demandé si ces juifs qui ont maintenant répondu à Jésus-Christ et qui adorent également dans l'Église se sont peut-être demandé et ont essayé de contester s'il était vraiment le peuple de Dieu. De plus, le problème était que l'Église devenait probablement de plus en plus païenne. Donc, cela a peut-être ajouté de l'huile sur le feu. Ainsi, disent les juifs non chrétiens, vous les juifs qui croyez en Jésus le Messie et qui adorez avec l'Église, vous n'êtes pas vraiment le peuple de Dieu. Parce que regarde, tu deviens aussi de plus en plus gentil. Et alors, quelle est la place de Matthieu? Matthieu, je pense que l'une des principales raisons pour lesquelles Matthieu a été écrit est, tout d'abord, pour encourager les chrétiens juifs, à maintenir leur foi en Jésus-Christ. Mais c'est aussi pour expliquer pourquoi l'Église devient de plus en plus païenne. Et c'est là que toutes ces histoires entrent en jeu. Vous vous souvenez des sages? Pourquoi Matthieu demande-t-il à ces astrologues étrangers, ces gentils, de venir adorer Jésus? Pourquoi Matthieu demande-t-il à Jésus de dire, « Faites de toutes les nations des disciples » Parce qu'il le rappelle, Matthieu le rappelle à ces chrétiens juifs, qui dans un sens sont en conflit avec d'autres juifs, et qui sont peut-être critiqués à cause de leur foi en Jésus-Christ et parce qu'ils appartiennent à cette église comme devenant plus gentils. Maintenant Matthieu écrit pour dire, « Eh bien, regardez, Jésus lui-même ne s'est-il pas préparé à l'inclusion des gentils ?» Ainsi, le fait que l'église soit de plus en plus païenne ne devrait pas vous choquer. Cela ne veut pas dire que vous êtes illégitime et que vous n'êtes pas vraiment le peuple de Dieu. Tu es. Jésus lui-même a indiqué et ouvert la voie à l'inclusion des gentils. Donc, dans un sens, cette insistance sur les gentils dans Matthieu est peut-être une sorte d'excuse de Matthieu et une excuse pour montrer que Jésus lui-même a enseigné que l'Église deviendrait gentille. Ainsi, les chrétiens juifs peuvent maintenir leur foi en Jésus-Christ. Cela vise à encourager le discipulat et l'obéissance au Christ, mais c'est, encore une fois, en réponse au fait que les juifs chrétiens sont probablement critiqués, ou que leur identité est remise en question par les juifs qui, encore une fois, s'interrogent sur ces juifs chrétiens et pourquoi ils se sont tournés vers eux. Jésus-Christ, et pourquoi l'Église devient-elle si gentille? Eh bien, Matthieu répond à cela, parce que c'est ce que Jésus avait prévu, parce que Jésus a enseigné que l'Église deviendrait et que son groupe de disciples comprendrait des gentils. C'est pourquoi Matthieu écrit pour expliquer pourquoi l'Église devient païenne, et pour les encourager, les inciter à devenir disciples et à obéir à la suite de Jésus-Christ, même en dépit du conflit avec d'autres juifs non chrétiens. Maintenant, pourquoi, ou qu'est-ce que, à la lumière de cela, qu'est-ce que Matthieu, quels sont certains des autres thèmes importants de Matthieu, qu'est-ce que Matthieu souligne sur le fait que soit les autres évangiles ne le font pas, ou du moins pas dans la même mesure que les autres évangiles le font-ils? Or, ce n'est pas tout ce sur quoi Matthieu insiste. Il y a certaines choses que Matthieu dit et souligne que les autres évangiles font, et c'est tout aussi important, mais je vais me concentrer principalement sur les idées clés que Matthieu semble souligner et que vous ne trouvez pas soulignées, ou du moins autant, dans les autres évangiles. Donc, tout d'abord, le Jésus de Matthieu. L'un des traits les plus caractéristiques du portrait de Jésus que Matthieu fait de Jésus, comme nous l'avons déjà vu, est que Matthieu présente Jésus comme le Christ ou le Messie. Autrement dit, Jésus est clairement décrit comme le Messie, dans la lignée de David, en accomplissement des promesses que Dieu a faites à David, remontant à 2 Samuel 7 dans l'Ancien Testament. Ainsi, à partir de 2 Samuel 7, il y a cette attente qui se poursuit jusque dans les prophètes, que Dieu tiendrait sa promesse envers David, et que l'un des descendants de David s'assiérait sur le trône et régnerait sur Israël, mais sur la terre entière. Matthieu précise maintenant que Jésus est le fils promis de David. Encore une fois, c'est pourquoi l'évangile commence par Jésus-Christ, fils de David, Messie, fils de David, fils d'Abraham. Donc, Jésus est le Christ, c'est-à-dire que par Christ, nous voulons dire que ce n'est pas, du moins dans Matthieu, ce n'est pas le deuxième nom de Jésus. Son prénom est Jésus, son nom de famille est Christ. Au moins dans Matthieu, pour l'essentiel, Christ est un titre qui indique qu'il est le Messie, qu'il est le fils de David. Deuxièmement, Jésus est représenté comme le fils de Dieu, à plusieurs endroits uniques. Ceci probablement aussi, le titre fils de Dieu indique probablement aussi que Jésus est le Messie, mais il indique également sa relation unique avec le Père. Jésus est le vrai fils de Dieu. Il entretient une relation unique avec le Père, mais indique probablement aussi qu'il est le Messie. Dans des endroits clés de Matthieu, Jésus est étiqueté ou appelé fils de Dieu. Jésus accomplit l'Ancien Testament. Je ne devrais pas seulement dire la loi, mais tout l'Ancien Testament, mais spécifiquement la loi. Souvenez-vous, Matthieu chapitre 5, 17, quand Jésus dit, « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. » Matthieu ne veut pas dire principalement que Jésus en est venu à y obéir parfaitement, bien qu'il l'ait fait. Ce que Matthieu veut dire, c'est que Jésus est arrivé, car l'accomplissement, c'est-à-dire la loi, ce vers quoi la loi se dirigeait, indiquait et anticipait, est maintenant finalement atteint avec la personne de Jésus-Christ. La personne et l'enseignement de Jésus sont le véritable objectif de la loi de l'Ancien Testament et de tout l'Ancien Testament. Alors pourquoi Matthieu se souvient-il que nous avons vu au chapitre 2 que Jésus est décrit comme le nouveau Moïse? Il est représenté comme Israël. Il est décrit comme la lumière du monde et des nations selon Isaïe. Que fait Matthieu? Il montre que tous ces éléments de l'Ancien Testament trouvent leur point culminant dans la personne de Jésus-Christ. Et en ce sens, il le remplit. Donc, Matthieu veut être clair, et c'est l'une des raisons pour lesquelles Matthieu est un premier livre si approprié du Nouveau Testament parce qu'il a les liens les plus clairs avec l'Ancien Testament. Parce que Matthieu veut préciser que, encore une fois, l'Ancien Testament est une histoire incomplète. Et maintenant, l'évangile de Matthieu termine l'histoire en montrant que Jésus est le dernier chapitre et le point culminant, la conclusion et l'accomplissement de l'histoire et de toutes les histoires commanditées dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi Jésus est le fils de David. C'est le fils d'Abraham. Il est plus grand que Moïse. Il est le nouvel Israël. Là où Israël a échoué, Jésus réussit maintenant. Il est plus grand que Jonas. Il est plus grand que Salomon. À maintes reprises, Matthieu veut que vous compreniez que Jésus est le point culminant et surpasse toutes les histoires de l'Ancien Testament. Ils trouvent tous leurs conclusions et leurs points culminants dans la personne du Christ. Ainsi, Jésus accomplit la loi de l'Ancien Testament, mais aussi tout l'Ancien Testament. Nous avons déjà vu que Jésus est décrit comme le nouveau Moïse. Certains érudits se demandent, vous savez, pourquoi Jésus monte-t-il toujours sur une montagne pour enseigner? Dans le sermon sur la montagne au chapitre 5, Jésus monte sur une montagne. Luc ne dit pas qu'il est monté sur une montagne. Cela ne veut pas dire qu'il ne l'a pas fait, mais Matthieu le dit clairement. La grande commission, à la toute fin du chapitre, où Jésus dit-il à ses disciples de le rencontrer. Sur une montagne, qui peut refléter et rappeler Moïse montant le mont Sinaï pour recevoir la révélation de Dieu, sa loi, qu'il donnerait au peuple. Ainsi, Jésus, Matthieu, veut le décrire comme étant semblable à Moïse, mais plus grand que Moïse. Nous avons vu au chapitre 2 les parallèles avec Jésus échappant à un roi, tuant tous les bébés garçons. Matthieu veut donc clairement présenter Jésus comme un nouveau Moïse. Matthieu semble également vouloir présenter Jésus comme un sage enseignant. Rappelez-vous que nous avons dit que Matthieu est divisé en 5 blocs principaux de discours. Matthieu semble vouloir décrire Jésus comme un enseignant. Et donc, il n'est pas étonnant que vous arriviez à la fin de l'évangile et que Jésus le répète, les baptisant et leur apprenant à faire tout ce que je vous ai commandé. Et les choses qu'il leur a commandées seraient ces 5 blocs d'enseignement tout au long du livre de Matthieu. Je pense que c'est le dernier. Cela fait donc 5. Encore une fois, il y a d'autres choses que Matthieu dit à propos de Jésus, mais celles-ci semblent être des accents distincts dans le portrait de Jésus que Matthieu fait. Et nous verrons, par comparaison, comment les autres auteurs des évangiles décrivent Jésus. Un autre thème important est que nous avons déjà parlé un peu de l'accomplissement de l'Ancien Testament. Encore une fois, Jésus est décrit dans Matthieu comme celui qui est le point culminant et l'accomplissement de tout l'Ancien Testament, et pas seulement des prophéties directes. La plupart d'entre nous, probablement, lorsque nous lisons le Nouveau Testament, pensons que Jésus accomplit l'Ancien Testament alors que l'Ancien Testament prophétise à son sujet. Mais ce n'est pas le cas. Même dans les parties de l'Ancien Testament qui ne prophétisent pas, Jésus les accomplit quand même. Parce que encore une fois, Matthieu, à la lumière de la mort et de la résurrection de Jésus, Matthieu retourne en arrière et lit l'Ancien Testament et voit comment tous ces brins, morceaux, parties et personnes de l'Ancien Testament trouvent finalement leur répétition et leur apogée dans le personne de Jésus-Christ. Encore une fois, comment Matthieu peut-il dire que Jésus accomplit la loi? La loi n'était pas une prophétie. Cela n'a pas prédit la venue du Christ. Mais en même temps, le véritable style de vie et l'idéal que la loi de l'Ancien Testament anticipait et essayait d'atteindre atteignent leur apogée dans l'enseignement de Jésus et dans sa vie. En ce sens, on peut voir que Jésus accomplit l'Ancien Testament. Ce que nous entendons par accomplir, c'est simplement que Jésus est le but vers lequel pointait l'Ancien Testament. Dans ce cas, il l'accomplit. Ainsi, Jésus accomplit l'Ancien Testament. Le royaume de Dieu et le royaume des cieux sont un autre thème dominant du livre de Matthieu. Je suis un peu au-delà de ça maintenant. Nous parlerons un peu du royaume de Dieu dans un instant. Mais Jésus, surtout dans Matthieu, Jésus vient au tout début prêchant le royaume de Dieu. Et nous allons parler de qu'est-ce que cela signifie. Pourquoi Jésus est-il venu prêcher le royaume de Dieu et offrir le royaume de Dieu? Que voulait-il dire par là? À quoi s'attendaient ses auditeurs? Enfin, le thème du discipulat. L'une des caractéristiques clés de Matthieu est que Jésus prépare et que Jésus anticipe et prépare un groupe de disciples qui perpétuerait sa mission. Et c'est très clair à la toute fin de la Grande Commission, quand il dit à ses disciples d'aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant et les enseignant. Ainsi, Matthieu décrit Jésus comme préparant et pourvoyant un groupe de disciples qui répondraient par obéissance à Jésus et perpétueraient sa mission. Maintenant, il est très important de réaliser aussi que ce qui se passe ici, c'est Jésus, avec ce thème du discipulat et Jésus prenant des dispositions pour un groupe de disciples qui le suivraient dans l'obéissance, ce qui est en quelque sorte l'essence du discipulat, c'est Jésus. C'est redéfinir ce que signifie être le peuple de Dieu. Encore une fois, pensez à l'arrivée de Jésus et à son enseignement, à sa mort et à sa résurrection, comment la plupart des gens au premier siècle et avant cela, compte tenu de ce que nous avons examiné dans certains des éléments historiques que nous avons traités plus tôt, semestre, que diraient la plupart des gens, comment répondraient-ils à la question, que signifie appartenir au peuple de Dieu? Comment auraient-ils probablement répondu à cela? Et même si on leur avait demandé, que signifie être un disciple, que signifie appartenir au Christ? Comment la plupart des gens, en particulier les adeptes juifs, auraient-ils répondu à cette question? surtout compte tenu de certaines des enquêtes que nous avons examinées, de l'histoire, de la politique et de la culture qui ont conduit à l'Ancien Testament. Oui, en gros, vivre comme un juif et comme Moïse. La loi de Moïse, comme nous le verrons plus tard dans certains écrits de Paul, la loi de Moïse fonctionnait souvent comme un marqueur d'identité, une frontière qui vous démarquait des autres nations, des gentils, et vous distinguait en tant que peuple de Dieu. Alors, au premier siècle, si on vous demandait, que signifie être le peuple de Dieu? Qui était le vrai peuple de Dieu? Et même qui le serait, qui étaient les disciples de Jésus? La plupart d'entre eux auraient répondu que ce sont ceux qui observent la loi de Moïse et qui sont ethniquement identifiés à la nation juive. Maintenant, Jésus arrive, et comprenez cela, c'est en partie la raison pour laquelle Matthieu présente Jésus comme le véritable Israël. Maintenant, Jésus arrive et redéfinit cela. Puisque Jésus est le véritable Israël, c'est lui, encore une fois, nous regardons le baptême de Jésus et sa tentation, Jésus répétait en fait l'histoire d'Israël. En tant que véritable Israël, comment pouvons-nous répondre à cette question? Appartenir au peuple de Dieu et à Jésus signifie simplement répondre à Jésus. Cela signifie que ce n'est plus réservé aux Juifs. L'appartenance au peuple de Dieu ne se résume plus à l'obéissance à la loi ou à l'identification aux Juifs. Maintenant, cela est déterminé et défini uniquement par rapport à Jésus-Christ. Encore une fois, dans une sorte de judaïsme de l'Ancien Testament, qui est le véritable peuple de Dieu. Que signifie être le peuple de Dieu? Ce que signifie suivre le Messie, c'est obéir à la loi et appartenir ethniquement et physiquement à la nation juive. Maintenant Jésus, en tant que véritable Israël, qui a accompli la destinée d'Israël et tout l'Ancien Testament, maintenant il redéfinit cela. Maintenant, nous devons nous poser la question, que signifie appartenir au peuple de Dieu? Qui sont les vrais disciples du Messie? Il ne s'agit plus de ceux qui obéissent à la loi ou qui sont juifs. Maintenant, c'est quiconque répond au véritable Israélite, au véritable Israël, Jésus-Christ. Quiconque répond à Jésus appartient désormais au vrai peuple de Dieu et est le véritable Israël. Par conséquent, si tel est le cas, alors les gentils peuvent également devenir le peuple de Dieu, à la fois juifs et gentils. C'est pourquoi Matthieu met l'accent sur les gentils pour montrer que si le facteur décisif est maintenant Jésus-Christ, alors les gentils peuvent devenir le peuple de Dieu au même niveau que les juifs, car maintenant cela n'est plus centré sur la loi et les autres marqueurs d'identité juive. Elle est désormais centrée sur la foi en Jésus-Christ. Par conséquent, les gentils sont également inclus. Ainsi, en soulevant cette question des disciples, Jésus prévoit un groupe de disciples qui lui répondront par obéissance et poursuivront la mission que Jésus a commencée, faire des disciples de toutes les nations. Mais en même temps, il a redéfini ce qu'est un disciple ou un disciple du Christ et ce que signifie appartenir au peuple de Dieu. Elle n'est plus centrée sur la loi, ni sur les privilèges et l'identité juive. C'est centré sur la personne du Christ. Et cela va également devenir important pour comprendre un certain nombre d'autres documents du Nouveau Testament. D'accord. Des questions jusqu'à présent. Cela nous amène à la fin de Matthieu. Encore une fois, je veux parler. Le premier excursus dans vos notes est le royaume de Dieu, qui est un concept très important à comprendre. En fait, je dis habituellement à ma classe, si vous oubliez tout ce que je dis, ce qui bien sûr ne se fera pas, mais si vous le faites, vous devez comprendre ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a offert le royaume de Dieu, parce que cela aidera à vous donner un sens à une grande partie du reste du Nouveau Testament. Mais toutes les questions liées à Matthieu en ce qui concerne les thèmes dominants de la représentation du Christ, la manière dont il représente le Christ, la relation du Christ avec l'Ancien Testament, l'accent mis sur Jésus, le royaume de Dieu, dont nous parlerons dans un moment, puis Jésus et le discipulat. Ce sont quelques-uns des thèmes dominants. Des questions concernant Matthieu jusqu'à présent. Donc, vous êtes sûr que, disons, lors d'un test ou quelque chose comme ça, vous pourrez répondre à n'importe quelle question que je vous ai posée à propos de Matthieu. Je pense que vous pourriez probablement le faire. D'accord. Alors parlons un peu du royaume de Dieu. Que voulait dire Jésus lorsqu'il est venu offrir le royaume de Dieu? Quand il a dit, « Repentez-vous, Parce que le royaume de Dieu ou le royaume des cieux est proche, il est proche. Qu'offrait Jésus? Et que feraient ses premiers lecteurs, les premiers lecteurs de Matthieu et les auditeurs de Jésus, lorsqu'ils entendraient Jésus prêcher pour la première fois, qu'auraient-ils compris? Pourquoi Jésus offrait-il un royaume? Pourquoi n'est-il pas venu offrir le salut des péchés, ce qu'il a fait? Je veux dire, il leur dit de se repentir, mais pourquoi Jésus n'est-il pas venu prêcher, ne s'est-il pas repenti de vos péchés et n'a-t-il pas cru que je vais mourir sur la croix pour tous vos péchés et que vous serez sauvés et aurez la vie éternelle? Pourquoi a-t-il offert le royaume de Dieu? Que proposait-il? Eh bien, pour comprendre cela, il faut remonter un peu, en fait, très loin, en fait, jusqu'au tout premier livre de la Bible, le livre de la Genèse. C'est un point de départ pour comprendre le royaume de Dieu. Et la première chose à dire avant d'examiner cela, c'est par royaume, quand je parle du royaume de Dieu, ou pas de moi, mais quand Jésus offre le royaume de Dieu, par royaume, Jésus veut principalement dire le règne dynamique ou la règle de Dieu. C'est une référence au règne puissant de Dieu. Il ne s'agit pas d'une référence à une période ou à un lieu comme le Royaume-Uni, une zone géopolitique. Par royaume, ce que Jésus offre lorsqu'il parle du royaume de Dieu, il entend le règne et la domination de Dieu, le règne et la direction puissante de Dieu. C'est un concept dynamique, pas une référence à une certaine période ou à un lieu. C'est donc le premier point de départ, nous comprenons que le royaume signifie le règne actif et la domination de Dieu dans la vie des gens. Maintenant, le contexte de l'Ancien Testament. Encore une fois, il est important de revenir au chapitre 1 et 2 de Genèse. Et ensuite, je vais avancer très rapidement. Il ne s'agit pas d'un cours d'enquête sur l'Ancien Testament, et j'en suis conscient. Mais il est important de comprendre que pratiquement tout ce que Jésus a fait, notamment dans Matthieu, a ses racines dans l'Ancien Testament. Et cela est particulièrement vrai du royaume de Dieu. Revenons donc au Jardin d'Éden. Dans les chapitres 1 et 2 de Genèse, Dieu crée l'humanité. L'une des choses importantes qu'il dit sur la raison pour laquelle Dieu a fait cela est la raison pour laquelle Dieu a créé Adam et Ève. Eh bien, nous obtenons une indication lorsque Genèse 1 dit, Dieu dit, « Créons l'homme et la femme à notre propre image et laissons-les régner sur la création. » L'intention de Dieu pour l'humanité est qu'elle gouvernera, qu'elle représentera le règne de Dieu. Je suppose que cette image, peut-être que vous en avez parlé dans l'Ancien Testament, l'image signifie principalement que l'humanité devait refléter la règle de Dieu et régner sur la terre. C'est donc intéressant lorsque l'image est mentionnée dans Genèse 1 et 2, c'est dans le contexte de l'humanité soumettant la terre et la régnant. Ainsi, Dieu a créé l'humanité à son image afin qu'elle soit les représentants de Dieu dans son règne. Dieu est le roi de la terre, mais l'humanité, en tant qu'image de Dieu, doit refléter cette règle, représenter la règle de Dieu et répandre sa règle et sa gloire sur la terre entière. Cependant, comme le raconte l'histoire, Adam et Ève n'y parviennent pas, ils péchent et sont exilés du jardin d'Éden. Le reste de la Bible, dans un sens, est une histoire sur la manière dont Dieu restaurera son originalité. Intention pour l'humanité de régner sur toute la création, d'être les représentants de Dieu, de répandre sa gloire et de régner sur la terre entière. Eh bien, le suivant, si je peux passer dans vos notes, concerne le roi David. Nous avons déjà parlé de l'alliance que Dieu a conclue avec David, selon laquelle Dieu aurait quelqu'un qui serait assis sur le trône de David pour toujours, et que le trône de David serait éternel et perpétuel. La raison de cette alliance avec David, j'en suis convaincu, est la manière dont Dieu va établir et restaurer son intention de faire régner l'humanité sur la terre. Il le fera par l'intermédiaire d'un roi davidique. Donc, encore une fois, la promesse d'un roi faite à David n'est pas seulement quelque chose qui dit que, oh, Israël a besoin d'un roi, Dieu fera donc la promesse qu'il y aura toujours un roi dans la lignée de David. Cela fait partie du plan de Dieu pour l'humanité, selon lequel l'humanité gouvernerait toute la terre. Mais ils ne l'ont pas fait, ils ont péché. Alors maintenant, la manière dont Dieu restaurera son intention de faire régner l'humanité, de répandre la gloire de Dieu et de régner sur toute la terre, est de choisir un roi de la lignée de David, un Messie, qui gouvernera et qui finira par régner sur toute la terre. Ainsi, le roi Davidique, le Messie, est le moyen par lequel Dieu réalisera son intention de Genèse et 2 selon laquelle l'humanité régnerait sur toute la terre. Maintenant, comme vous le comprenez, le problème était qu'Israël, à cause de leur péché, Israël et le roi n'avaient toujours pas atteint leur objectif. Ils tombèrent dans le péché et l'idolâtrie et furent exilés. Nous en avons donc un peu parlé. Israël est en exil à Babylone et en Assyrie à cause de son péché. Et l'une des questions, l'un des problèmes, c'est que maintenant il n'y a plus de fils sur le trône de David. L'une des choses qui inquiétait ou s'interrogeait les Israélites, qu'en est-il des promesses de Dieu concernant un roi davidique? Parce que c'est à travers le roi que Dieu allait régner sur toute la terre et qu'il rétablirait son intention de faire régner l'humanité sur toute la terre. Alors, qu'en est-il des promesses de Dieu concernant un roi dans la lignée de David? Parce que maintenant ils sont en exil, ils sont dans un pays étranger, il n'y a pas de roi sur le trône. C'est donc là qu'interviennent les prophètes. Les prophètes de l'Ancien Testament, Ésaïe, Ézéchiel et Jérémie, anticipent un moment où Dieu restaurera les Israélites dans leur pays avec un roi dans la lignée de David régnant sur eux. Encore une fois, tout cela fait partie de l'intention de Dieu contenue dans Genèse 1 et 2, selon laquelle l'humanité devait gouverner et représenter le règne de Dieu sur toute la création. Maintenant, Dieu va faire cela à travers un roi dans la lignée de David. Ainsi, les prophètes finissent par anticiper un moment où Dieu restaurera son peuple et où il y aura un roi qui régnera sur lui et qui finira par régner sur la terre entière en accomplissement de Genèse 1 et 2. Maintenant, revenons rapidement à Matthieu, que se passe-t-il alors? Jésus veut dire quand il vient offrir le royaume de Dieu. Voici le Messie tant attendu dans la lignée de David qui non seulement régnera sur Israël mais amènera l'humanité vers sa destinée de régner sur le monde entier. Et donc, quand Jésus vient offrir le royaume de Dieu, je suis convaincu que c'est ce qu'il attend, c'est ici l'accomplissement de cette promesse. Voici le roi davidique qui régnera sur nous, sur la terre entière et mènera l'humanité vers son but et sa destinée. Maintenant, il y a une sorte d'ingrédient supplémentaire avec cela. Le problème est que, encore une fois, en y repensant, et cela nous aidera à répondre à quelques autres questions que nous allons examiner, c'est que lorsque vous repensez à notre discussion sur le contexte politique et historique, que seraient les gens d'autres? En pensant au premier siècle quand ils ont entendu que lorsque Jésus vient et dit, « Repentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche », et quand ils entendront parler de cette personne qui est appelée le Christ, le fils de David, que vont généralement penser les gens? Oui, c'est vrai. Oui, voici la personne qui va nous libérer de Rome. Encore une fois, beaucoup de Juifs se considéreraient toujours en exil à cause du péché, et maintenant ils regardent autour d'eux et César est assis sur le trône au lieu d'un roi et de la lignée de David. Voici César sur le trône. Rome est fondamentalement la superpuissance du moment, régnant sur tout. Et maintenant, voici cette personne qui dit que le royaume de Dieu est proche, et en plus, il est étiqueté comme le fils de David. Que vont-ils penser? Voici celui qui va enfin nous délivrer des griffes de l'Empire romain. Voici celui qui régnera sur ses ennemis avec un sceptre de fer, qui établira son royaume et nous amènera à notre destinée prévue, répandre le règne et la gloire de Dieu dans toute la création. Et ainsi, vous pouvez commencer à comprendre pourquoi, au moins au début, Jésus était parfois capable de rassembler si rapidement un grand nombre de fidèles, car le voici. Nous avons travaillé sous la domination romaine. Et pas seulement cela, si vous vous en souvenez, il n'y a eu qu'une courte période de temps, nous avons parlé un peu des racines de la fête de Hanouka et de la très brève période de libération de l'influence étrangère. Avant et après cela, les Juifs se retrouvent sous l'esclavage étranger. Et voici maintenant celui qui promet le règne davidique tant attendu qui libérera le peuple de ses ennemis. Encore une fois, vous pouvez comprendre pourquoi tant de gens se rassemblent souvent vers Jésus, parce que voici cette personne qui va faire cela. Le problème est que, d'une part, alors que Jésus a clairement offert ce royaume, il devient également clair dans Matthieu et dans les autres évangiles qu'il ne l'a pas offert de la manière à laquelle il s'attendait. En fait, cette ligne ici représente ce qu'auraient pensé la plupart des Juifs, les Juifs chrétiens, beaucoup d'entre eux, ce qu'auraient pensé la plupart des Juifs, imprégnés de l'Ancien Testament, ce qu'ils auraient pensé dans le monde. Cet âge présent, qui était fondamentalement une époque dominée par le mal et le péché, l'influence étrangère et l'oppression étrangère. Donc vivre dans cet âge, et cette flèche représente l'avènement du royaume de Dieu, qui inaugurerait l'âge à venir. Une époque où Dieu règne, encore une fois, est fondamentalement l'accomplissement de Genèse 1 et 2, et la promesse de la venue d'un roi davidique dans 2 Samuel et dans les prophètes. Ainsi, Dieu visiterait la terre et, par l'intermédiaire de son Messie, établirait son royaume et régnerait pour toujours. Encore une fois, Isaïe chapitre 9, le célèbre texte que nous citons à Noël, dit que ce fils serait dans la lignée de David, et qu'il régnerait pour toujours, il n'y aurait pas de fin à son règne. Cela viendrait ici, et alors cet âge prendrait fin, une fin décisive, et le royaume de Dieu introduirait une nouvelle ère de paix et de bénédiction. L'ère du royaume de Dieu, où Dieu régnerait, et il régnerait sur la terre, et son peuple accomplirait sa destinée de représenter le règne de Dieu sur la terre entière. C'est donc ce qu'il pensait. Alors, quand Jésus vient offrir le royaume, c'est ce qu'il pense. C'est ici. Voici l'âge à venir. Je ne sais pas s'il utilise toujours nécessairement ce langage, mais voici l'âge à venir. Voici le royaume tant attendu où Dieu détruira nos ennemis et inaugurera cet âge de paix et de bénédiction, le règne de Dieu et une nouvelle création. C'est donc ce qu'il pense que cela va se produire. Cependant, Jésus fait quelque chose d'un peu différent. Jésus offre le royaume, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il viendra en 2 versements. Tout cela ne viendra pas d'un coup. Cela se fera en 2 versements. Oups, désolé pour ça. Cela va ressembler à ceci. Cela représente Jésus. Cette ligne du bas représente cet âge, et cette ligne du haut représente l'âge à venir, le royaume de Dieu. Or, quand Jésus vient, cette croix représente sa mort, mais elle représente aussi sa vie, sa mort et sa résurrection. Avec la venue de Jésus, sa vie, sa mort et sa résurrection, Jésus offre le royaume, mais vous remarquerez que cela ne détruit pas complètement cet âge. Cet âge continue. Cela ne l'éradique pas complètement et n'y met pas fin. Oui, c'est déjà là. Le royaume est déjà arrivé. L'âge à venir est déjà arrivé. Quand Jésus dit, « Repentez-vous, le royaume est ici. » C'est déjà arrivé, mais cela arrive d'une manière qui n'efface pas cette époque actuelle, dominée par le péché et le mal, et dominée par Rome. Au lieu de cela attend une seconde venue du Christ, un moment où le Christ reviendra et apportera le royaume de Dieu. Il le consommera et l'amènera dans sa perfection et sa plénitude. Il éliminera le mal de cette époque et établira son royaume éternel qui durera pour toujours. Est-ce que tout le monde voit ça? Ainsi, comme le disent souvent les érudits, le royaume est déjà là, en partie, même s'il n'est pas encore là dans sa plénitude. Ainsi, le concept de déjà ou pas encore, certains l'appellent échatologie inaugurée. Autrement dit, le royaume de la fin des temps dont les Juifs pensaient qu'il viendrait en un seul événement, Jésus l'a maintenant divisé en 2 événements. Cela vient en partie lors de sa première venue. C'est pourquoi Jésus peut dire que le royaume est déjà là. Les hommes et les femmes peuvent entrer dans le royaume de Dieu dès maintenant. Les hommes et les femmes peuvent expérimenter le règne et le règne de Dieu à travers le roi davidique, Jésus, dès maintenant. Pourtant, cela n'est pas arrivé d'une manière qui élimine complètement le mal, ni les ennemis de Dieu et d'Israël. Cela ne se produit pas d'une manière qui amènerait une toute nouvelle création à la fin de l'ère actuelle. Elle vient en partie, en prévision du jour où elle viendra dans sa plénitude. C'est très important pour comprendre Matthieu car lorsque vous lisez Matthieu, vous découvrez les 2 perspectives. Parfois, vous lisez quelque chose sur le royaume de Dieu, et c'est clair qu'il est présent, qu'il est déjà là. Mais à d'autres moments dans Matthieu, Jésus parle du royaume de Dieu comme de quelque chose d'encore futur. Comment peut-il être les 2? Cela semble l'expliquer. Ce royaume de la fin des temps a déjà atteint le présent. Nous pouvons déjà expérimenter le futur royaume de Dieu dès maintenant, à travers la personne du Christ. Mais nous n'en faisons pas encore l'expérience dans sa perfection, sa plénitude et sa complétude. Cela attend encore l'avenir. Donc, c'est déjà là, en partie, mais ça n'a pas encore atteint sa plénitude. Donc ça déjà, mais pas encore. Parfois, les gens plaisantent en disant que si je vous pose une question et que vous dites déjà, mais pas encore, vous aurez raison environ 80% du temps. C'est peut-être exagéré, mais dans cette phrase, ce n'est pas unique à moi. C'est simplement un terme couramment utilisé pour décrire la vision du royaume de Matthieu. Des questions à ce sujet. En fait, cette idée existe déjà, mais pas encore. Le fait que le royaume soit déjà arrivé, en partie, nous pouvons en faire l'expérience maintenant. Mais ce n'est pas encore le cas. Cela n'est pas encore arrivé dans sa plénitude et sa perfection. C'est important pour comprendre le reste du Nouveau Testament, jusqu'au livre de l'Apocalypse. Si vous comprenez cela, vous serez en mesure de donner un sens à de nombreux autres endroits du Nouveau Testament, qui semblent à première vue plutôt déroutants. Des questions? Je veux m'assurer que tu comprends ça. C'est important. Cette idée du royaume, du règne de Dieu, en accomplissement des promesses de David. Encore une fois, ce que les Juifs pensaient se produirait en un seul acte décisif. Jésus le divise maintenant en deux actes. L'arrivée du royaume lors de sa première venue, mais seulement partiellement. C'était déjà là, mais ce n'était pas encore arrivé dans son intégralité. Évidemment, nous vivons dans cette période. Encore une fois, ce graphique n'a pas pour but de nous dire où je peux dire où il se trouve, où nous vivons par rapport à cette ligne. Cela vise simplement à montrer que le peuple de Dieu a vécu entre l'époque où l'ère maléfique actuelle est toujours là, mais que le royaume de Dieu est également présent. Parce que c'est ce que faisait Jésus. Je suis venu offrir le royaume tant attendu promis par David. C'est déjà là. Les hommes et les femmes peuvent y entrer et en faire l'expérience dès maintenant, avant sa pleine manifestation, sa consommation, qui viendra dans le futur. Par conséquent, le royaume existe déjà, mais il ne l'est pas encore. Il n'est pas arrivé. Une autre façon de voir les choses, cette flèche pourrait être élargie. En d'autres termes, encore une fois, ce que vous avez vu se produira sous la forme d'un événement glorieux. Il est désormais divisé en deux événements distincts.